Dom Théo. Dom Théo, un dialogue théologique avec les Dominicains de Toulouse.
Frère Édouard, nous allons continuer sur la parole de Dieu. Pour moi, c'est quelque chose d'important que la parole de Dieu, c'est fondement de la vie chrétienne. Et j'avoue que dans ma prédication, dans ma relation un peu à des chrétiens qui cherchent à avancer dans la vie, je mets toujours en avant la parole de Dieu. Quand je vois le besoin des uns et des autres, certains jeunes notamment qui ont envie d'aller un peu d'avancer dans leur vie chrétienne, souvent se disent cherchent comment, c'est un peu comment utiliser la parole de Dieu. On voit se développer de plus en plus, me semble-t-il, de la lectio divina, c'est quelque chose qui prend de plus en plus de place. Je me souviens quand j'étais jeune frère dominicain, il y a 20 ans, 25 ans, les groupes bibliques, on parlait plus de groupes bibliques. Aujourd'hui, on va voir une recherche de la lectio divina. Je vois dans des groupes avec qui je peux être amené à prier, ce rapport, un rapport à l'écriture sainte où on va aller, j'ai envie de dire, piquer une phrase, un verset dans la Bible. Alors bon, c'est bien de s'en nourrir comme ça. Je crois qu'il est quand même important de se demander comment elle peut être utile, la parole de Dieu. J'ai envie de citer la deuxième lettre de saint Paul à Timothée, au chapitre 3, à partir du verset 16. « Toute écriture est inspirée de Dieu. » C'est ce dont nous avons parlé dans nos échanges jusque-là. « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser, former à la justice. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve-t-il accompli, équipé pour toute œuvre bonne. » Je trouve que c'est intéressant que nous parlions vraiment aujourd'hui de dire qu'est-ce que c'est que s'équiper pour toute œuvre bonne, comment la parole de Dieu peut nous être utile, avec peut-être le danger de devenir utilitariste. Que penses-tu là-dessus ?
Alors, la parole de Dieu dit clairement qu'elle est inspirée de Dieu, et je crois que c'est ce premier point qu'il ne faut pas manquer avant de passer au deuxième, qui est l'utilité. C'est ce redressement intérieur qu'il faut faire par rapport à la grandeur de la parole de Dieu, son origine, et pour éviter la manipulation de la parole de Dieu, il faut dire que ce qu'elle est dans ses racines et faire cet effort à chaque fois que j'ouvre la parole de Dieu de me rappeler qu'elle est divine, qu'elle est éternelle, qu'elle est puissante, qu'elle est illuminatrice, qu'elle me porte à la pureté, et tous ces points-là vont être déterminants après pour que je me l'applique. Et si je fais pas cet effort de me tourner vers l'origine, je risque un peu alors, effectivement, comme tu dis très bien, d'être manipulateur de la parole de Dieu, de la tirer seulement dans un sens horizontal. Tiens, j'ai besoin de savoir si aujourd'hui je dois faire cela. Qu'est-ce que me dit la parole de Dieu? Je prends la parole de Dieu, je la l'ouvre au hasard, je mets mon doigt au hasard sur une ligne et je me dis, tiens, je vais appliquer la ligne que je suis en train de lire. Alors c'est vrai que des saints ont pratiqué cet usage de la parole de Dieu, mais dans un contexte où ils avaient une vie liturgique. Ils avaient sans cesse un rapport à la parole de Dieu dans sa transcendance. Et du coup, ce qu'ils faisaient, d'une manière pratique, était pris dans un fleuve déjà constant, où ils se rappelaient que ce n'est pas une parole d'homme, d'abord cette parole divine. La première épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13, le rappelle. Nous ne cessons de rendre grâce à Dieu de ce que, une fois reçue la parole de Dieu, que nous vous faisions entendre, vous l'avez accueillie non pas comme une parole d'homme, mais comme ce qu'elle est réellement, la parole de Dieu, et cette parole reste active en vous, les croyants. Croire qu'elle est active, c'est-à-dire donc du coup qu'elle va me pousser à agir.
Frère Édouard, j'aime beaucoup le fait que tu rappelles que pour pas être dans la manipulation, ceux qui ont pu utiliser la parole de Dieu en allant piquer un verset comme ça étaient effectivement pétris de la parole de Dieu. Elle faisait partie de leur vie, dans la liturgie notamment. Et pour moi, il y a une importance pour aujourd'hui, quand on veut aider quelqu'un à entrer dans sa vie chrétienne, à être vraiment familier de la parole de Dieu. Alors tu disais, hein, elle est une parole. Les paroles divines, paroles inspirées. Tu utilisais d'autres adjectifs, éternelles, puissantes, illuminatrices. Peut-être faut-il éclaircir. Ce qu'on met derrière ça.
Alors, le mot éternel rappelle qu'elle est là toujours, elle subsiste selon le mot traditionnel. On le trouve en Isaïe dans une très belle expression disant que toute chair passe, en quelque sorte, c'est comme notre vie humaine. Nous avons un début, nous avons une fin, nous mourons. Nous sommes comme la fleur des champs qui passe. L'herbe se dessèche, la fleur se fane, dit Isaïe au chapitre 40. Quand le souffle du Seigneur passe sur elle, l'herbe se dessèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsiste à jamais. Parce que la parole de Dieu est créatrice. Elle est à l'origine de tout. Et de ce point de vue-là, elle contient tout le créé. C'est extraordinaire de penser cela, cette puissance de l'éternité. De même qu'elle est puissante.
Avant d'aller sur puissante, ce que tu disais sur la parole qui subsiste à jamais me rappelle une anecdote que je dis parfois, tellement ça m'a choqué, je pense, quand j'étais jeune frère dominicain. Je me souviens d'un professeur d'histoire dans une université catholique qui me dit un jour après une messe: quand l'Église va-t-elle arrêter de faire entendre dans sa liturgie ces vieux textes qui ne disent plus rien à personne et prendre des textes d'aujourd'hui? Les textes d'aujourd'hui subsistent-ils?
C'est vraiment... C'est ça. Ils passent l'un après l'autre et en plus, ils n'ont pas l'efficacité que la parole de Dieu a. Finissons peut-être par ce rappel qu'elle est, elle arrose la parole de Dieu, de même que la pluie et la neige descendent des cieux, nous l'avions vu la dernière fois, ils ne retournent pas sans avoir arrosé la terre, est-il écrit en Isaïe 55, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer pour fournir la semence au semeur et le pain à manger, ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche, elle ne revient pas vers moi sans effet, sans avoir accompli ce que j'ai voulu et réalisé, l'objet de sa mission.
J'aime bien l'idée que la parole de Dieu a une mission. D'une certaine façon, elle a une mission, elle nous envoie en mission. La parole de Dieu qui ne descend pas sur la terre sans avoir accompli, réalisé l'objet de sa mission, ça me fait penser d'ailleurs à la façon dont l'image de la rosée ou la pluie, la rosée qui féconde, quand la pluie, quand elle touche la terre, la terre et la pluie ne font plus qu'un, on ne peut plus séparer l'une de l'autre. Et j'aime assez bien, je pense aux personnes qui, par rapport à la parole de Dieu, donc se disent, mais qu'est-ce que Dieu veut pour moi? L'idée de la volonté de Dieu qui est derrière. J'aime assez bien souligner le fait que c'est l'union des volontés qui l'emporte, quelque chose que je redis souvent, parce que je fais corps avec cette parole qui m'irrigue. Oui. Je reçois la parole, c'est la parole de Dieu, mais ça devient ma parole est portée par la parole de Dieu, ma parole porte la parole de Dieu en même temps.
Oui. Et dans cette configuration des volontés qui s'unissent, il faut que ma volonté soit en quelque sorte illuminée, hein, qu'elle reçoive un rayon de lumière qui vient d'en haut, un rayon qui va permettre qu'il y ait cette adéquation entre la volonté de Dieu et la mienne. La mienne doit s'ajuster, celle de Dieu est de toujours à toujours, mais la mienne doit s'ajuster par une illumination. Et Saint Pierre, dans sa deuxième lettre, le dit: « Nous tenons plus ferme la parole prophétique, vous faites bien de la regarder comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'astre du matin se lève dans vos cœurs. » Donc il y a besoin de ce temps illuminateur, au moment où ça fait tilt en nous et où ma volonté s'ajuste à la volonté de Dieu. Avant tout, poursuit Pierre, sachez-le, aucune prophétie d'écriture n'est objet d'explication personnelle. Ce n'est pas d'une volonté humaine qu'est jamais venue une prophétie. C'est poussé par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu. D'où la nécessité d'être très à l'écoute de l'Esprit de Dieu qui est à l'origine de cette parole.
l'esprit qui... Enfin, on est dans cette question de l'inspiration, de l'écriture dont nous avons déjà parlé, où l'esprit a inspiré un auteur, c'est bien ce qui nous est dit. L'esprit fait qu'un texte est inspiré, et l'esprit fait que je vais être inspiré quand moi-même je vais lire tout ça.
La parole de Dieu. Et la première chose qu'elle peut faire, cette parole de Dieu, c'est qu'elle va me dépouiller quelque part de ce qui peut-être sont les scories, je dirais, du monde, des attachements, je dirais, non conformes au Christ, à tout ce qui est autour de moi. Et donc, elle va être source de pureté. Et le psaume 119, verset 9, le dit magnifiquement. Comment jeune garder pur son chemin à observer ta parole. C'est-à-dire que la parole, bien sûr, s'écoute, mais après, s'observe, dans le sens qu'elle se met en pratique. Elle n'est pas seulement, je dirais, illuminatrice, elle est illuminatrice jusqu'à ce que ma volonté donc passe à l'acte. Et c'est dans ce moment-là que la parole de Dieu, alors, me transforme en profondeur.
Comment jeune garder pur son chemin en observant ta parole. Nous allons terminer d'ailleurs là-dessus, je pense, oui. Mais ça vaut le coup de s'imprégner, de relire et relire ce psaume 118, ce gros psaume, grand psaume 118, qui est une méditation de la parole de Dieu.
La Torah, l'enseignement de Dieu, sans cesse, le psalmiste reprend chaque verset comme étant une merveille pour s'extasier devant cette parole de Dieu. Si je suis sec devant la parole de Dieu, eh ben pourquoi ne pas lire d'abord des bonnes parts du psaume 118-119, m'en imprégner, me dire, bah oui, c'est vrai que cette parole de Dieu produit vraiment cette adéquation de mon cœur au cœur de Dieu, un cœur à cœur qui se fait, un ajustement des volontés.
Frère Édouard, la prochaine fois, il faudra que nous revenions sur cette idée de comment se laisser purifier par la parole, mais surtout, au fond, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour ceux qui se posent la question, mais comment je peux mieux lire la parole de Dieu concrètement, qu'est-ce que je peux en faire? Rendez-vous à la prochaine fois.
À la prochaine fois.